bon ? Bien. Bien.
Eh bien, bonsoir. Nous attaquons aujourd'hui notre troisième séance autour de la cinquantaine d'années qui nous occupe, vous le savez, depuis quelque temps, puisque nous allons aujourd'hui à nouveau essayer d'analyser cette période de 1920-1970 dans l'art occidental. Alors je vous rappelle que la première séance avait été consacrée à un des courants majeurs que l'on peut observer à cette époque, le pop art. On avait vu ses racines, ses diverticules, que sais-je encore. La fois dernière, nous nous étions intéressés à la sculpture. Alors, c'était avant vos vacances, c'est mieux. Vous avez oublié, évidemment, mais quand même, il va en rester un peu quelque chose. Et aujourd'hui, on va essayer de voir une troisième dimension, pourrait-on dire, de cette phase. Et je vous propose aujourd'hui, en fait, d'organiser la séance en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 œuvres qui vont nous permettre d'identifier, de silhouetter un autre courant artistique de cette période. Et puis après, la deuxième partie sera un petit quiz. C'est-à-dire que je vais vous montrer des œuvres, une 35aine à peu près, et le but sera d'essayer de découvrir quel est l'artiste correspondant. Il y a des artistes que vous connaissez, d'autres pas, d'autres entre les deux. Bref, on va voir. Donc voilà comment s'organise cette séance aujourd'hui. D'abord une phase analytique, et ensuite une phase de reconnaissance d'un certain nombre d'artistes. Ça vous va ? Alors évidemment, j'insiste, je l'ai déjà fait précédemment fois, mais essayer de trouver à travers une période comme celle-ci des tendances artistiques n'est jamais très simple, parce qu'évidemment, on le fera dès aujourd'hui, quelquefois telle ou telle œuvre peut être, entre guillemets, classée dans différents courants. Voilà. Mais enfin, je crois qu'essayer quand même de trouver des cadres à la production, même si on peut les travailler, les discuter, les contester, c'est un prisme qui est vraiment utile et pratique pour essayer d'analyser l'art d'une période. C'est ce que l'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors je vous montre tout de suite une première œuvre. Je viens de dire que je vous ai préparé dans la première partie 6-8 œuvres par ordre chronologique. D'ailleurs, dans le quiz final, c'est pareil. Les œuvres seront présentées par ordre chronologique. Alors on commence par une première œuvre que nous allons donc évoquer, discuter, commenter, et que voici. Alors, quid à propos de l'œuvre que vous avez sous les yeux ? Tout ça ? Pas tous en même temps. Ah oui, alors évidemment, c'est un peu autre chose. Ouais. Oui,
ouais. C'est réaliste, déjà.
Réaliste. Ouais.
Germanique. Violent.
Assez violent, oui.
Et puis les traits sont presque caricaturaux.
Assez caricatural. Ça fait peut-être partie de la violence que vous signaliez.
Ouais. Il n'y a que des hommes.
Pardon ?
Que des hommes.
Que des hommes, en l'occurrence, oui.
Il y en a qui a un peu de chance
sur la tête. Je pense que c'est un des éléments qui permet de parler de caricature, oui.
Et un ecclésiastique derrière.
Est-ce vraiment un ecclésiastique ? Je pense que c'est plutôt un juge. Si vous voyez à gauche, là, je pense que c'est celui-là dont vous voulez parler.
Celui qui est en dessous du pot de chambre.
Celui-là, voilà. C'est plutôt un juge.
La coiffure encore plus haute. On dirait un peu un casque.
Oui.
Alors, celui qui est derrière.
En haut à droite.
Oui, en haut à droite. Là. Oui, vous avez visiblement, évidemment, un soldat avec un casque suffisamment germanique. Ça a été relevé tout à l'heure, oui. Alors, je crois que vous avez, en quelques mots, bien analysé. Voilà une peinture réaliste, une peinture caricaturale, une peinture assez violente. Une peinture où entre le pot de chambre d'un côté sur la tête d'un personnage et le soldat en haut à droite, on voit que...
Il a une matraque.
Il a une matraque ou une épée, peut-être un sabre, je pense. On voit qu'on est devant une violence un peu comment dire, évidemment caricatural, je reprends les mots mêmes que vous avez utilisés.
Et en haut à gauche, on dirait des grilles de prison.
Alors, je pense que c'est, oui, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt un incendie. Visiblement, il y a un bâtiment dont on voit les fenêtres, mais éclairé de l'intérieur par un incendie qui brûle l'immeuble en question. Pardon ? Ah, ça fait évidemment penser au Reichstag. Voilà, je crois que le côté germanique, effectivement, s'affirme une fois de plus. Alors, c'est peut-être pas l'incendie Reichstag, mais enfin, ça y fait penser, hein. À vrai dire, quel est le but d'une œuvre telle que celle-ci ?
Pour dénoncer la société.
Voilà. C'est clairement une œuvre dénonciatrice. Hein, et tous les éléments que vous avez pu souligner, évoquer, sont là pour, effectivement, montrer ou dénoncer quoi, finalement ? Alors, d'accord, dénoncer la haine du temps, mais...
La violence.
La guerre qui a déjà lieu ?
Non. Qui a eu lieu, c'est celle de 14.
Alors, voilà, il y en a eu qui a eu lieu, et puis peut-être l'autre qui va...
Qui va arriver.
Voilà, on est, vu la période qui est la nôtre, 20-70, puisque je vous dis que je vais vous présenter les œuvres chronologiques, on est là visiblement relativement tôt, plutôt avant la Deuxième Guerre, mais après la Première, effectivement. Au-delà de la violence, de la dureté du temps, de l'idée de la guerre, etc. Qu'est-ce que cette peinture dénonce aussi ?
C'est la République de Weimar.
Oui.
Parce qu'il y a le drapeau allemand.
Ouais.
Et la collusion entre les juges, enfin certaines couches de la société.
Oui. Oui. Je crois que
les militaires, les juges et les bourgeois,
effectivement, je crois que cette peinture, effectivement, dénonce la violence, la guerre à venir, mais la guerre qui a eu lieu. Mais je crois effectivement qu'elle ne fait pas que dénoncer que ça, elle en dénonce les causes, c'est-à-dire la société du temps. Hein. Effectivement, cette collusion qu'on a entre une justice qui porte mal son nom, une armée omniprésente et un certain nombre de gens qui, au premier plan, en gros, se partagent le gâteau. Quoi. Donc, en fait, ce qui est montré là, c'est certes la violence, mais ce qui est dénoncé surtout, c'est les causes de la violence. Hein. Effectivement. Est-ce que vous avez une idée de l'artiste qui a fait ça ?
Pardon ?
Gross. Ouais. Ben je crois que vous pensez bien. Enfin, on verra tout à l'heure quand on ramassera les copies. Hein. Mais je pense que, effectivement, on est là devant l'œuvre de Gross. Son petit nom, c'est quoi ?
Ah, je ne sais pas.
Vous savez pas. Ça, c'est pas très grave. Voilà, Gross qui est effectivement une des figures importantes hein, de cette Allemagne entre les deux guerres. Vous savez dire comment est-ce qu'on évoque en Allemagne ? Quel est le nom que l'on donne à ce courant pictural, pas que pictural, mais essentiellement pictural, qui se développe en Allemagne entre les deux guerres. Un courant qui vraiment est très. Cette œuvre est extrêmement célèbre, hein, mais qui est très. Marqué par des personnalités comme Gross, vous savez comment
ça s'appelle ? Ça fait partie de l'expressionnisme.
L'expressionnisme, oui. Il y a un autre nom souvent aussi qu'on donne ?
Le Bauhaus.
Pardon ?
Le Bauhaus
est un courant, alors plutôt, on va dire, de design, hein, et dans le domaine architecture aussi, qui se développe à la même période, qui est très connexe. Hein. Mais Bauhaus est plutôt, j'allais dire, une sorte de, comment dire, j'allais presque dire, de style. Vous voyez ce que je veux dire hein. Non, l'autre nom que l'on donne souvent, c'est la nouvelle objectivité. L'autre nom que l'on donne volontiers à ce coup. Bien, alors, on va... Allez, regardez une autre œuvre. Voilà. Alors, allons-y. De quoi s'agit-il ?
Une figure féminine. On ne peut pas forcément dire un portrait.
Alors, effectivement, vous avez raison, hein, on peut difficilement dire un portrait. Hein. Un portrait, après tout, ce serait le visage très précis d'une personne donnée. Là, je crois que c'est difficile de l'affirmer, effectivement. Hein.
Ça me fait inspirer de l'art nègre.
Pardon ?
Ça me fait inspirer de l'art nègre.
Oui, de l'art, entre guillemets, nègre seulement.
On disait primitif.
Oui.
Voilà, on pourrait dire ça aussi. Ça ressemble à un masque.
Voilà,
oui, c'est vrai.
C'est que des formes géométriques qu'on a.
Que des formes géométriques.
Oui,
c'est vrai. Effectivement, c'est-à-dire peut-être ce qui fait penser à cette influence des arts primitifs. Hein. Primitifs, vous avez senti les guillemets hein, qui entouraient ce mot-là, qui sont souvent marqués par une grande attention à la géométrie. Hein. Donc on est là effectivement devant une œuvre où le visage est très 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 géométrisé. Une œuvre qui, quelque part, fait beaucoup penser au cubisme. Il hein. Y a une chose, notamment, qui fait penser, évidemment. Hein. Pardon ? Ah, on le met, oui.
Et puis le cou et le...
Et puis le cou et les épaules, hein. C'est chouk-chouk. Hein. Vraiment, on voit rarement même quelqu'un qui est allongé de ça. Hein. Donc, effectivement, c'est une sorte de visage cubisé, si j'ose dire. Hein. Ouais. Alors, quelle est l'idée qu'il y a derrière ça ? Qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire.
On peut tout réduire à de la géométrie.
C'est ça. L'idée est effectivement une sorte de vision géométrisante hein, de tout. C'est-à-dire qu'un visage, après tout, peut être entre guillemets, réduit, peut se résumer à des formes géométriques.
C'est aller à l'essentiel.
Voilà, aller à l'essentiel. C'est ce que les arts premiers nous montrent. C'est ce que l'Europe découvre, en quelque sorte. Hein. On peut-être, après tout, d'autres l'ont fait avant l'Occident. Bah, l'Occident l'a fait jadis. Hein. Pensons, par exemple, à l'art celtique. Hein. C'est un peu la rue, ça. Parce que les personnes qui réalisent ce genre d'œuvre en Occident à l'époque sont des gens qui se réfèrent à l'art de l'Afrique subsaharienne, qui se réfèrent à l'art de l'Océanie, qui se réfèrent aussi à d'autres secteurs artistiques, lesquels, par exemple, l'Amérique précolombienne, quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup les artistes de ce temps, hein. Mais également les arts primitifs occidentaux, hein, qui jusque-là avaient été un peu tenus comme des arts barbares. Hein. Alors, on ne regardait pas trop, je ne sais pas, la sculpture gallo-romaine, par exemple, qui apparaissait comme quelque chose qui ne valait pas la grande sculpture classique grecque ou romaine. Hein. Et là, on commence à re-regarder ça. Si, hein. Et très souvent, je suis d'ailleurs, vous êtes Chalon, hein, vous êtes de Nantes. Vous connaissez les collections archéologiques gallo-romaines du musée de Nantes. Vous y verrez des sculptures antiques des 1er, 2e, 3e siècle de notre ère qui longtemps n'ont pas été regardées et qui, en fait, ressortissent de ce genre d'idées, une sorte de géométrisation, de simplification de la chose. Donc, ces artistes-là retravaillent là-dessus. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore autour de ça ?
Belle harmonie de couleurs.
Oui, je crois que c'est important de parler des couleurs, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'adéquation couleur-forme.
Ouais.
D'ailleurs, les couleurs, elles sont traitées comment ? Ou quasiment comment ?
Non, elles sont là par
plat. Quasiment par à plat. Alors, il y a des petites, des ombrouilles. Hein. Voilà, on voit que le cou tourne un peu, hein, parce qu'il se blanchit un peu sur la main gauche. Hein. Mais en gros, c'est quand même des aplats de couleurs. Ce qui est vraiment quelque chose aussi très très marqué. Le fond est vert, le corps est rouge, le visage est blanc, le nez a trois couleurs, vraiment des aplats de couleurs dont des formes géométriques. Décidément, la couleur, la forme, tout est une géométrisation de la figure. Très bien. Donc là, on est devant une idée vraiment très plastique. Hein. Par exemple, le propos de Ketusana est vraiment un propos. Proprement artistique, plastique, si vous voulez. Hein. Une idée de l'artiste qui a fait ça. Non. Et un endroit, l'Occident, peut-être. Bon, l'Occident, c'est grand. Hein.
Oui, c'est
grand.
Le nez représente un drapeau.
Pas que je sache, mais...
Bon, tu vois les crèmes, bleu et jaune.
Non, c'est parce que c'est
bleu et
jaune.
Bleu et jaune.
Non, pas d'idée particulière.
Non.
Bon, eh bien, on verra tout à l'heure. Artiste, très important, pour pas dire essentiel. Bon, le suivant, je crois que ça pose pas de problème.
Ah oui, ça c'est Picasso.
Ça c'est signé, si j'ose dire.
Oui, Picasso.
Sans lettre. Effectivement, voilà une œuvre de Picasso. Alors là aussi, quelle est l'idée, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que l'on remarque, qu'est-ce que...
C'est une scène d'intérieur.
Scène d'intérieur.
Oui, mais c'est surtout une femme décortiquée.
Un peu déstructurée et réduite à un plus grand espace.
Alors effectivement, c'est une femme décortiquée, déstructurée.
Plasmolisée.
Oui. Donc l'idée, encore une fois, c'est quoi là?
Ah oui, de la tapisserie de Germol.
Pardon?
Bon.
Ça c'est le côté médiéval.
Un côté médiéval.
Dans la tapisserie.
Il y a une tapisserie à Germol comme ça?
Ah oui, dans la chambre.
Dans la chambre avec du verre.
Premier étage.
Ah? Ah, le fond, vous voulez dire. Ah, d'accord. Mais je vous remarquez que ça n'est pas une tapisserie. Ah non, une tapisserie, c'est quoi? C'est du tissu.
Ou du papier.
Ah, Germol, ce sont des peintures murales. Rien à voir avec tapisserie. Ah, les papiers peints, ce n'est pas des tapisseries. Le papier peint, c'est du papier peint. Hein. Quand on appelle tapisserie un papier peint, c'est une erreur grossière. Hein. C'est comme si on disait qu'une peinture est une sculpture. Ça n'a rien à voir. Hein. Un papier peint, c'est quelque chose qui est imprimé. Une peinture, c'est quelque chose qui est fait. Sur le... Rien à voir. Hein. N'appelez pas un papier peint une tapisserie. Non, hein, vous êtes des historiens de l'art. Vous n'êtes pas des boy scouts. Hein. Si on est des historiens de l'art, ce que nous sommes dans ce Sénat, hein, on appelle tapisserie une tapisserie et papier peint des papiers peints. Voilà. Chaque chose a chaque mot à son, hein, à son sens. Bien. Alors c'est vrai, vous avez là un fond, je n'y avais pas pensé. Hein. Vous pouvez penser effectivement aux peintures murales. De Germol, enfin de loin quand même.
Moyen.
Disons que c'est, oui, moyen. Disons que c'est le fond est vert avec des petits dessus. Voilà. Ok, très bien. Mais je ne suis pas sûr que Picasso ait jamais visité Germol. Demain, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, mais je crois que ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Bien. Donc, le but de Picasso, c'est quoi dans une œuvre comme celle-ci?
Ça veut dire la femme,
C'est représenter une femme uniquement avec ses symboles.
Oui, c'est quelque part représenter. Alors, là, c'est une femme, ça pourrait être un homme, ça pourrait être un animal, ça pourrait être n'importe quoi. Là, c'est une femme. Voilà. Effectivement, là, alors, vous dites réduire. Je ne sais pas si utiliserait ce mot réduire.
Représenter un thème classique, femme assise.
Oui. Alors, oui. Ça, vous avez aussi raison de le dire. C'est-à-dire que là, Picasso, il reprend un thème super classique. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, Picasso est un grand classique.
Oui, oui.
Picasso, il admire Ingres, etc. Picasso est un très grand classique. Un très grand classique. Hein. Aujourd'hui, encore plus. Hein. Mais vraiment, c'est un classique. Il connaît son art classique sur le bout du doigt. Hein. Donc, il reprend là un sujet super classique. Hein. Une femme nue dans un intérieur. On fait ça depuis toujours. Bien. Donc, il chausse là les skis, si j'ose dire, d'un artiste absolument classique. Hein. Mais vous avez raison. En quelque sorte, il déconstruit complètement la vision classique pour s'attacher à prendre les éléments essentiels et pour résumer d'une autre manière la réalité.
Hein. Parce qu'elle drapait aussi.
Voilà, absolument, tout à fait. Et on voit bien comment son but, c'est pas de reproduire la nature, c'est d'en prendre des éléments et puis de la reconstruire complètement. Par parenthèse, vous savez que Ingres, qui est, si vous voulez, un des grands mecs de Picasso, avait fait la même chose. Hein. Oui, oui. Hein, vous savez que la grande odalisque a été présentée au salon, comme l'a-t-on entendu, hein, on a entendu qu'il y avait des vertèbres entre autres, etc. Ingres s'intéressait à rendre la réalité, mais elle a transcendé quelque part. Picasso fait pareil en poussant le cochonnet encore plus loin. On est là. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire devant une œuvre telle que celle-ci?
Que c'est très sexué.
Très sexué, oui.
Très coloré.
Très coloré, oui.
C'est curieux. Paraplat.
Paraplat.
C'est structuré. C'est très cerné.
Très cerné, oui.
C'est très cerné et ces lignes, elles donnent... elles représentent quelqu'un qui est au repos et en fait, elles donnent beaucoup de mouvement dans le...
Paradoxalement, oui. Oui, oui. Effectivement, c'est quelqu'un qui est normalement assis, etc. Et en, pourtant, ça, et en même temps, ça bouge. Oui.
Et c'est opposé au cadre et à la porte qui sont droites.
Voilà, oui, oui.
Il y a cette opposition.
Oui, 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 effectivement, parce qu'on a en haut à gauche quelque chose qui semble être une peinture accrochée au mur, hein, et à droite une porte ou un paravent, donc des structures très orthonormées, on va dire, hein, très géométriques, alors que la figure au milieu, elle, est exactement l'inverse.
Elle couvre complètement.
Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça nous dit sur ce peintre, finalement ? Espèce de le fait que dans une seule peinture, vous ayez des éléments très rigoureux, géométriques, et en même temps, complètement explosés. Et presque baroque, contourné, méandreux, mobile.
Presque la méduse.
Presque.
Une méduse.
Presque. Une sorte de pieuvre.
Des grandes écoles de peinture.
Pardon ?
Il reprend les codes des grandes écoles.
Oui, on peut. Alors, c'est pas faux, parce qu'on l'a vu, hein, c'était un grand connaisseur de l'art, Picasso. Oui. Hein.
Donc, il met des droites, il met des obliques.
Oui.
Et il aime les oppositions, c'est-à-dire qu'il aime à la fois les oppositions très rigides des rectangles. Et en même temps, il mélange ça avec la souplesse des courbes, parce qu'à côté, ce ne sont que des courbes. Donc, il aime tout ce qui est opposé.
Oui. Il y a chez lui une espèce de presque d'ambiguïté permanente, d'opposition permanente, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, peut-être, pour pousser encore cette idée-là ?
Je ne sais pas, il n'y a que la femme qui est dans des courbes et tout ce qui est mobilier et tout ça, c'est très drôle.
Oui, effectivement. Décidément. Important d'insister sur cette opposition-là.
Sa femme, là, c'est presque provocant avec son nombril.
Oui. Tous les éléments sexués de la femme sont là très, très montrés. Oui, absolument. Ce serait un homme, ce serait pareil. Hein. Oui. On connaissait des identifications plus masculines. Oui. Même combat. Hein. Peut-être un mot qu'on pourrait utiliser devant une œuvre comme celle de Picasso, c'est le mot diversité ou même éclectisme. Parce que vous connaissez comme moi Picasso, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément évolué dans sa carrière. Hein. Vous avez tous en tête ce qu'on appelle la période bleue et la période rose. Bon, on est très loin de ça. Hein. Vous avez en tête la fin de sa carrière aussi. Hein. Et vous avez en tête l'époque cubiste. Enfin, bref, Picasso est quelqu'un qui ne cesse de bosser, de travailler. Et d'abord, c'est un travailleur énorme, hein, il fait 10 peintures par jour, voilà. Il n'arrête pas. Hein. Donc c'est vraiment un gros travailleur, il peint tout le temps. Il ne peut pas s'en empêcher. Et c'est quelqu'un qui est d'un éclectisme incroyable. Dans la même œuvre, il fait œuvre de géométrie et de l'inverse. C'est quelqu'un d'un éclectisme stupéfiant. Ça, c'est effectivement Picasso. Et c'est marrant parce que ce peintre si éclectique, si divers, quand on voit une œuvre de lui, on la reconnaît. Vous n'avez aucun mal à dire c'est Picasso. Et à vrai dire, c'est le cas pour à peu près toutes ses œuvres. C'est un artiste hyper divers, hyper reconnaissable.
Ça, c'est américain.
C'est Hopper. Vous avez raison, c'est Hopper.
C'est Hopper. On le reconnaît, c'est les intérieurs d'Hopper.
C'est ça. C'est effectivement Edward Hopper. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là aussi là-dessus ?
Une scène
de vie quotidienne, oui.
C'est très réaliste.
Très réaliste. Très réaliste.
Enfin,
oui, suffisamment réaliste. Oui,
suffisamment réaliste. Critique de la société américaine.
Oui, qu'est-ce qui se passe finalement là ?
Rien.
Il se passe rien. C'est bien le problème peut-être.
C'est la communicabilité.
Les personnages ne se regardent pas.
Oui.
Ils se regardent pas et ils font rien ensemble.
Ouais.
On ressent le silence.
Oui, oui, oui. C'est une œuvre très, très silencieuse.
Et puis ça nous met dans la position d'un voyeur.
Oui, parce qu'on entre dans un appartement
vu de l'extérieur.
de l'extérieur, un peu subrepticement, hein. Voilà, on est voyeur quelque part, hein. Et on voit quoi justement ?
Chacun est occupé, on voit une femme et un homme, chacun occupé à une activité en se tournant le dos.
Oui.
Je ne sais pas si c'est une activité, parce qu'on a l'impression que la femme, elle s'ennuie, l'homme rentre du travail. Elle ne joue pas, elle tapote pour s'occuper.
C'est ça.
Elle ne joue pas.
Je crois que vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a l'impression, heureusement il y a quand même de la musique, on a effectivement l'impression que monsieur est rentré du boulot, quoi. Et que bah, il lit son journal, quoi, voilà. Et madame, bon, passe le temps en pianotant. Il n'est pas trop question de parler, hein.
Les visages sont voilés aussi.
Ouais, les visages sont de voilés, de fermés. Ouais, absolument. Ouais.
Puis avec le cadre de la fenêtre.
Oui.
Il est bien noir.
Ouais. Oui. Oui, effectivement, le cadre de la fenêtre qui crée une sorte de cadre dans le cadre, en quelque sorte. Hein. Ouais.
Parler de réalisme, mais les visages ne sont pas clairement.
Non, c'est vrai. Oui, oui.
Donc
oui,
c'est juste la posture qui importe, peut-être.
Oui, oui. Je crois que le mot réalisme n'est pas faux. Hein. Oui. On est quand même devant une œuvre qui a présence de quelque chose. On voit bien ce qu'il en est. Voilà. Mais c'est effectivement un réalisme qui a ses limites, parce que vous incitiez tout à l'heure là-dessus. Hein. Il y a un côté. Enfin, les visages sont particuliers, un peu fermés, on ne voit pas vraiment les traits. Donc le réalisme a ses limites, effectivement.
Mais c'est curieux parce que la dame est blanche,
ouais.
Et le monsieur est très brun.
Ouais.
Oui, mais la chemise.
Oui, mais il y a une chemise blanche, la chemise qui est.
Oui, moi j'aimerais bien que
c'est
un rituel où chacun
a son portable. Oui, ah, mais c'est ça. Ah oui, mais Hopper aurait fait des choses superbes aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Alors, pour dénoncer la société actuelle, il aurait été parfait, je crois. Hein. Ouais. Ils en seraient donnés à cœur joie. Hein. Donc, je crois que vous avez bien résumé la situation. On est dans une œuvre réaliste, avec les limites du genre. Hein. On est dans une œuvre qui, effectivement, montre une sorte de silence. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais à mon avis, assez triste, non ?
Triste, oui.
Je trouve que c'est une tristesse abyssale. On vient de Picasso, on a vu une femme déployée sur un fauteuil, c'était gay, il y avait de la couleur, etc. Là, il y a de la couleur, c'est de la cynisme. En fait, il y a le cadre noir autour, on a l'impression de faire part de deuil.
Ouais.
Pourtant, il n'y a que de la couleur.
Très égoïste. Pardon ?
Il n'y a que des couleurs chaudes, des jaunes, des.
Ben oui, oui. Alors, le cadre de la fenêtre n'est pas très très chaud, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des couleurs chaudes, quoi. Et pourtant, on a l'impression d'une sorte de tristesse abyssale.
Monsieur est dans un fauteuil très confortable et madame est sur un tabouret de
piano. De piano, donc effectivement.
Comment ça se passe ?
Bah ouais, elle attend, quoi.
Je suis curieuse de connaître le titre.
Si ouais. Je sais plus, si, enfin, on verra tout à l'heure. Je me souviens. Mais en tout cas, vous l'avez déjà un peu dit, le sujet. L'idée, là, c'est quoi ?
Il n'y a pas de communication.
Pas de communication. C'est l'image
de la société américaine.
Voilà. C'est l'image de la société américaine, hein, en tout cas de cette époque. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est effectivement une sorte de quelque chose qui est entre la poésie triste et, je dirais, la rancune, finalement, contre une société qui produit ça. Alors, ok, on a une belle jeune blanche, une cravate, et un piano et un joli appartement. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ?
Pour pas dire autre chose.
Donc, effectivement, il y a là une sorte de volonté de décrire ça. Alors, vous connaissez plein d'autres œuvres de Hopper, hein, qui maintenant est très célèbre, il était totalement ignoré il y a encore peu, mais voilà, Hopper, c'est vraiment ça. Hein, c'est le chant d'une sorte de poésie triste.
Oui, parce que c'est triste, mais ça a beaucoup de charme quand même.
Oui, oui, mais oui. C'est bien ça, peut-être, l'intérêt de la chose. Hein, c'est que c'est très triste, parce que la dame, elle a sûrement sa machine à laver de l'époque. Hein, ouais. Ils ont tout ce qu'il faut, une jolie situation, etc. Mais c'est d'un ennui terrible.
Mais les corps représentés sont souvent froids. Hein. Les corps de femmes qui représentent, puisqu'ils prennent comme modèle sa femme,
oui.
Souvent, enfin, je ne sais pas, ils la représentent nue, allongée sur un lit. C'est
je sais pas, j'ai l'impression que c'est très froid, quoi.
Ah, il y a quelque chose d'un peu glacial.
Au niveau de la chair, enfin,
oui.
Il y a
cet endroit-là.
Enfin, là, c'est peut-être pas très flagrant, mais...
Oui, mais dans, encore qu'elle est très blanche. Oui,
voilà,
blanche.
Oui.
Ouais, non, vous avez raison. Il y a...
C'est parce qu'on ne sent pas la lumière. On a l'impression également que le monsieur tout bronzé vit à l'extérieur.
Oui,
il a une...
oui, oui, c'est presque caricatural.
Et que la dame est toute blanche,
elle prend l'aspirateur pour nettoyer. Ouais, hein. Un hoover formidable, merveilleux et bien vitré. Hein. Voilà, donc tout va très, 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 très bien. Et en fait, c'est le drame. Voilà.
Lui, on dirait quelqu'un qui travaillait en bourse.
C'est ça, c'est un youpi, on se rappelle les youpis, vous savez, hein, ces jeunes hommes qui sont très beaux, très bien, qui ont une belle chemise blanche, tout est parfait, un beau costume, tout est très bien. Madame a tout ce qu'il faut, encore une fois, le dernier aspirateur et la meilleure machine à laver. Hein. Donc tout est parfait, sauf que c'est épouvantable. Voilà. C'est finalement ce que nous dit, effectivement. Et tout ça avec une espèce de chic glacé et chaleureux.
On se demande qui va passer de par la fenêtre.
Ça peut ça. Bon, on espère qu'on est au premier étage. C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Bien, allez, on continue. Bon, le carré blanc est là, non pas pour que les plus importants s'en retrouvent pas, mais si j'en vois quelques-uns dans la salle. Mais parce qu'il y a une signature que je voulais. Encore une scène d'intérieur.
Avec trois personnes.
Ouais, trois personnages.
Et toujours la femme.
C'est très étrange.
Très étrange. Très étrange.
Qui est habillé, qui nous regarde, qui a l'air d'être dans un autre monde.
Ouais.
Que la toilette, le coiffage de cette femme.
Ouais. Je crois que vous résumez bien avec ce mot étrange ce que génère cette œuvre, ce que l'artiste veut qu'elle génère. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est clair. Je veux dire qu'il y a trois personnages, on est à l'intérieur, il y a une chaise, des brosées, il y a une fête, il y a une nude. Il n'y a aucun problème, on peut tout désigner. Pourtant, c'est une incroyable étrangeté.
Elle ne regarde rien.
Ouais. Oui.
Elle ne se regarde pas.
Non. Alors non, en plus, ça ne se regarde pas trop. Hein. Et donc, il y a une étrange, on comprend à vrai dire pas ce qui se passe. Parce qu'il se passe quoi?
Rien.
Bah, il se passe un. Alors, le monsieur a l'air d'attendre, on ne sait pas très bien quoi.
Qu'est-ce qu'il tient dans la chaise.
Oui, il tient le dossier de la chaise. Oui. On peut voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'il attend que la jeune femme soit prête. Oui. Bon.
Mais elle semble ailleurs.
Hein. Oui. Elle semble ailleurs.
Voilà.
Là aussi, ça doit être un milieu.
Oui,
on dirait une mort.
Oui, oui. Alors, on a effectivement l'impression d'un milieu aisé. Il y a quand même un tapis à droite, une coiffeuse.
Il y a une domestique.
En même temps, l'opulence est assez relative, je trouve.
Oui, oui, oui.
Vous voyez ? Parce que c'est. Il y a une espèce de buffet derrière, qui est pas. Voilà, qui est assez rustique. Hein. La coiffeuse, sur laquelle il n'y a rien, hein, est on ne peut plus simple. D'ailleurs, simple aussi, l'espèce de fenêtre à droite. Il y a par terre un bout de tapis qui est soudain l'élément mobilier un peu moins rustique que le reste. Bon. La chaise. Échange chaises paillées de base, parler d'un luxe.
Mais il y a un mal-être dans ce tableau, parce oui. Que autant l'homme est bien représenté, autant la femme, on dirait une statue.
Oui.
Et même une statue.
Un fantôme.
Un fantôme.
Oui, oui.
Et puis, c'est exagéré, quoi. Elle a un visage.
Son regard.
Il n'y a rien qui paraît réel.
Oui.
Alors que l'homme, lui, c'est parfaitement
oui,
bien
oui.
Fait.
Oui, oui. Oui, oui, je crois que vous avez raison de dire ça. Et je crois que l'étrangeté qui nous était signifiée dès le départ, elle apparaît là aussi. C'est-à-dire que l'homme a un côté effectivement très réaliste, hein, voilà, une photo, quoi. La femme est un ectoplasme, elle en a la couleur. Hein. D'ailleurs, regardez la servante, je sais pas comment, qui coiffe à l'arrière. Je trouve qu'elle est aussi d'un autre, entre guillemets, style. Elle a presque un côté petit de babouchka, enfin, vous voyez, un côté un peu figure populaire, vous voyez, sorti de je ne sais quel conte. Donc on a trois niveaux de représentation des figures complètement différents pour une salle dont on ne comprend pas ce qu'elle représente, dans un intérieur complètement incertain. Je crois que le terme d'étrangeté, et c'est bien parce que faire quelque chose d'étrange avec autant d'éléments réalistes, c'est vraiment bizarre.
La position de la tête de la jeune femme à droite est bizarre.
Oui.
L'impression qu'elle est mal en
rouge. Tout ça, c'est critique assez mal.
On pourrait penser qu'il imagine la femme et qu'elle n'est pas là vraiment.
C'est vrai. Oui, mais on pourrait penser effectivement que c'est plus une pensée, quoi, que cet homme imagine ce qu'il ne voit pas, mais que nous voyons.
Il y a un jeu de lumière, en fait, on a l'impression même d'une lumière un peu divine,
oui,
qui va sur elle,
oui,
et qui, ouais, effectivement, là...
Et puis aucun sens pratique, hein,
parce
que, aucun sens pratique. Parce que qui coifferait une femme si grande?
Effectivement, ça ne ressemble à rien. En plus, il y a une coiffeuse pour précisément permettre d'être coiffée. Donc, tout est incompréhensible dans ce tableau. C'est-à-dire que quand on le voit, on se dit bah oui, ça représente une femme qui se fait coiffer pour un homme. Voilà. Et quand on analyse un peu, et très vite, hein, on est pris par cette sorte d'étrangeté, voire de gêne. Hein. Pour un tableau qui, a priori, devrait ne poser aucun problème, mais qui est juste sur une espèce de ligne de crête qui fait que, en fait, c'est d'une étrangeté incroyable.
Et puis un format carré,
oui,
peu fréquent.
Ouais.
Format carré, c'est
tout à fait.
Je crois que vous avez très bien résumé cette œuvre, effectivement étrange, bizarre, qui met un peu mal à l'aise, à partir pourtant d'éléments parfaitement reconnaissables.
Quel est ce titre ?
Pardon ?
Le titre ?
Je ne sais plus non plus. Mais on verra tout à l'heure. D'ailleurs, je saurai, je vous le dirai. Mais effectivement, le titre va peut-être nous être utile tout à l'heure. Mais je m'en souviens plus. Voilà.
C'est un peintre qui habituellement peint des femmes plus jeunes ou des jeunes filles ?
Là, vous avez une œuvre très typique de lui. Typique ici. Batus.
Ah oui, voilà. Oui. Oui. Là, c'est des enfants.
Je crois que vous pensez bien.
Est-ce que c'est pas
oui, c'est... Et puis ses couleurs, sa palette.
On peut se demander, effectivement, est-ce que c'est pas le peintre qui est là ? Ou du moins, est-ce que le peintre ne joue pas le rôle de l'homme au premier plan ? Oui, on peut se poser la question. Mais vous avez raison, c'est Batus. Et je crois que vous avez vraiment parfaitement vu le travail de Balthus. C'est un travail qui est... Quand on regarde Balthus, on dit, bah oui, il y a une femme dans un intérieur, il y a une roue avec des personnages. Puis, en même temps, même si tout est absolument identifiable immédiatement, c'est des œuvres d'une étrangeté incroyable. Parce qu'on pourrait essayer, pour être étrange, pour représenter Picasso, quoi. Picasso, oui. Évidemment, Picasso n'est pas du tout étrange. On comprend tout de suite ce qu'il a fait. Il décompose des trucs, c'est rien d'étrange. Ça, c'est étrange. Alors, ça présente des choses évidentes de la vie, mais mise de telle manière et organisée de telle façon que c'est...
En fait, il y a 50% de réalisme et puis 50%, alors là...
Ouais. Je crois que c'est plus d'ailleurs l'agencement des choses qui fait ce réalisme dérape, en quelque sorte.
Le corps de la femme est quand même irréel.
Oui, 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 oui. Hein, oui, oui. Bah, on a vu qu'elle était d'abord ectoplasmique, très blanche, qu'elle est toute étirée, elle est trop grande, la tête sans manche mal sur le cou. Voilà, c'est... Elle n'est pas très grosse, oui. Ça arrive. En tout cas, c'est très, très bizarre. OK. Alors, regardons une autre œuvre. Un portrait. Pour le coup, c'est un portrait.
C'est un asiatique,
non,
Moi je pense pas. À moins que le personnage en question, vous connaissez peut-être, est des origines asiatiques, mais pas que je sache. Même si je suis pas spécialiste.
Non, mais le personnage,
le personnage, j'entends bien. Mais je sais pas s'il a vraiment des traits très asiatiques. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Peut-être que l'homme qui est ici représenté a une d'origine plus ou moins asiatique, mais je veux plus
d'Asie. Et qui est dominant.
Ah oui,
il est brillant, tout brille.
Même le siège est
ouais.
Détaillé dans tout ce. Mm-hmm.
Oui, c'est un personnage qui a une dimension un peu suffisante.
Voilà.
Oui, il y a peut-être un petit peu au-dessus de la mêlée. Pardon ?
On dirait presque une photo.
Oui, il y a un côté quasi photographique.
C'est sur une toile ?
C'est sur une peinture sur toile.
Il a mixé ce charentaise.
Non.
C'est des mocassins.
En fait, le peintre, on dirait qu'il s'est inspiré d'autrefois. Il y avait des représentations en pied ou en buste, avec toujours un air un peu suffisant. Et là, on a plus l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu imiter, mais à la mode du temps, des portraits d'autrefois.
Ouais.
Ça pourrait.
Oui, c'est pas faux. Hein. Oui, c'est effectivement une œuvre qui a l'air très, très inspirée de la tradition de la peinture de portraits. Évidemment, ils montrent souvent des gens un peu infatués d'eux-mêmes.
Voilà. C'est très bien avec des foulards, c'est très bien dessiné. Et la vanière. Et là, il a pareil, il a une écharpe autour du cou.
Ouais.
Ouais, c'est la brillance.
Oui. Ah, c'est visiblement, l'écharpe est en satin, la veste doit être en velours. Voilà, je pense.
Voilà, c'est ça.
Alors, effectivement, vous avez dit que c'était très réaliste, il y a un côté un peu hyper réaliste dans une vie de Sensei, effectivement. Hein. Le réalisme, là, est poussé à outrance, quoi. Et on n'a pas du tout le. Même si le personnage est un peu, encore une fois, un peu hautain, pas du tout, mais je trouve, le même genre d'impression que dans l'œuvre précédente, dans le sens, c'était pas un portrait avant, mais ce que ça génère comme impression n'est pas du tout pareil, quoi. Ici, on n'a pas une espèce de malaise que vous pouvez avoir, ça me semble.
Non.
D'abord parce qu'il est seul.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le peintre, mais est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ça a pu être peint, ça ?
Ça me fait penser à Ernest Pignon-Ernest.
Oui. Alors, c'est pas ça, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est que le travail de Ernest Pignon-Ernest, c'est plutôt un travail de noir et blanc, enfin, sans couleur, et un travail qui est... ni in situ, hein, puisque il fait des espèces de dessins, mais qui sont tirés en grand format et qui collent dans des lieux. Et il prend les photographies des lieux où il a posé ses œuvres. Alors, ses œuvres peuvent devenir des œuvres à part entière. Hein, mais ce qui l'intéresse aussi, et peut-être surtout, c'est le fait d'intégrer ses œuvres à un milieu urbain.
Oui, c'est ça.
Bien, ben, écoutez, on verra un petit peu plus tard ce qu'il en est. C'est Fernand Léger, effectivement. Hein, la silhouette de Fernand Léger, extrêmement reconnaissable. Voilà. Donc une œuvre de Fernand Léger, effectivement, vous avez bien dit, hein, c'est une sorte d'exaltation du travail, et en l'occurrence du travail manuel, hein, sont des ouvriers.
Ils sont un peu sur un building quand même, parce qu'on voit des petits nuages.
Oui. On voit qu'il y a des nuages tout autour, donc on sent qu'on construit de ces immeubles. Ça fait penser à certaines photos américaines, construire des gratte-ciels, etc. C'est l'idée qui est reprise ici. Il y a une espèce de structure très géométrique, vous le disiez. Hein.
C'est bien construit.
On voit les petites traits qui structurent. Léger a eu sa période, justement, géométrique et cubiste. Hein. On en voit ici le résultat, on pourrait dire. Hein. Oui.
Oui, c'est très gai, tout.
Oui.
C'est l'éloge du travail manuel, mais qui est facile.
Oui, ça a l'air. En tout cas, il y a un côté un peu enjoué, presque acrobatique. Hein. Ah, vous voyez ce personnage sur les chèvres, après, on a des scènes de cirque. Oui. Léger a fait des scènes de cirque aussi. Hein. Mais effectivement, il y a une sorte de. C'est une exaltation, une gloire du travail, mais une gloire, enjouée, gaie, vive, et pas plombée. Hein. C'est vrai.
Des répétitions des couleurs,
Des couleurs de quel genre d'ailleurs ?
Chaud, primaire.
Oui, primaire. C'est chaud et assez primaire. effectivement, il y a. En plus, là aussi, c'est elles sont passées comment? Par à plat, là aussi. Hein. Donc, il y a à peu près, pas l'idée, un peu pour les personnages, mais de créer du volume, tout ça est par à plat aussi. Très bien.
Pour les nuages, ça fait un effet un peu particulier, les nuages.
Oui, oui, ils ont un côté cotonneux, on dirait des boules de coton. Ça, c'est léger, ils représentent toujours comme ça, toujours très marrant.
On a l'impression que ça a été fait pour faire remplissage.
Non, oui, je ne sais pas, oui. Mais les nuages de léger sont comme ça, ça sent une espèce de pomme de terre blanche dans l'air. Et c'est très, très différent du reste, c'est ça qui est très curieux.
Oui, voilà.
Et c'est léger, toujours comme ça.
Ce sont des nuages d'enfants.
Pardon?
Des nuages d'enfants.
Un peu.
Un enfant les représenterait.
Oui,
vous faites... certaines des couleurs...
Pardon.
L'harmonie des couleurs est importante.
Oui, oui, ah oui. C'est assez tenu tout ça.
Ouais.
C'est intéressant votre remarque sur les enfants, parce que les dessins d'enfants, on parlera peut-être encore plus dans une des deux séances prochaines, mais la question du dessin d'enfants, de l'art des enfants, pourrait-on dire, hein, est quelque chose qui a beaucoup titillé les artistes de cette période. Hein. Et donc effectivement, il faut toujours avoir ça en tête. Hein. On parlait tout à l'heure des arts premiers. Les dessins d'enfants en font partie de ça. Mmh. Ok ?
C'est bizarre, c'est tout métallique et il y a une branche de l'arbre.
Oui, absolument. Au premier plan, il y a une branche d'arbre. On se demande comment elle se trouve là. Oui, on va couper avec un rameau. Ça, c'est... Alors, Léger aime beaucoup ce genre de choses. Hein. Elle aime beaucoup inviter dans ce genre de construction des choses un peu incongrues. On se dit, mais qu'est-ce que vient faire là ? Un peu comme, par rapport, j'étais une sorte de dimension rustique, soudain, la comprise. C'est très curieux, oui. Ouais.
Comme la grosse corde.
Alors, les cordes, on les comprend mieux, parce que pour lever des traits, etc., il faut un peu les cordes, quoi. Hein. Mais c'est ce bout de branche d'arbre qui a l'air d'être coupé d'un tronc qu'on vient de délaguer, hein. C'est très bizarre.
Oui, c'est presque un serpent.
Très bizarre. Alors, une dernière, avant le quiz.
Il y a un tigre. Très harmonieux.
C'est beau, les couleurs. Les couleurs,
non ? Ouais.
Un fondu, des couleurs délargées.
Ouais, c'est une sorte de paysage, d'abord.
Ah, ouais.
Ouais.
C'est pas Franz Marc ?
Pardon ?
C'est pas Franz Marc.
Franz Marc, je vois pas ce que vous voulez dire. Non. Il est mort en plus avant, en 1920. Il est mort assez tôt, Franz Marc. Et là, c'est d'ailleurs. Ça fait penser à ça, je vois ce que vous voulez dire. Alors, il aurait peut-être eu des couleurs un peu plus éteintes, vous voyez.
Oui, une femme peinte, je trouve.
Ah, ça pourrait. C'est pas. Mais ça pourrait.
Je pense à Nathalie Concharova.
Je vois. Je vois très bien pourquoi, oui. Mais c'est pas. Mais je vois pourquoi vous pensez à ça. Évidemment, ça pourrait être ça.
Ça fait un peu Nabi ?
Il y a un côté Nabi, sauf qu'évidemment, on est dans une période, 1920-1970, et je vous ai montré les œuvres chronologiquement. Donc là, on est peut-être plutôt à la fin de cette chronologie, on est beaucoup plus tard. Mais c'est un peintre qui, visiblement, est titillé par la couleur. Ça, on peut le penser. Et qui certainement a regardé du côté d'Ali. C'est très joli, effectivement, je trouve.
C'est très végétalisé.
Très végétalisé.
Non, plein de foulard. Oui, ouais, tout à fait.
Ça fait fouillis, mais on voit les beau. Détails.
C'est oui, c'est ça. C'est très bizarre, ça fait fouillis. Quand on voit ça, on se dit, on en prend bien la figure, quoi, parce qu'il y a plein de choses et plein de couleurs. Et en même temps, quand, voilà, on voit... Oui, qu'est-ce que vous voyez, par exemple?
Un personnage qui est allongé.
Oui.
On dirait un enfant. Enfin,
on voit un personnage allongé. Voilà, vous voyez son visage. Voilà, il est en train de dormir, visiblement. Voilà ses jambes ici.
On voit un tigre.
Mais il y a un tigre. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est un côté niveau de la jungle. Alors, ça n'est pas Walt Disney.
C'est
en tout cas. mis un carré blanc autrement. Bon, je crois que vous avez en tout cas bien vu. On est là devant une œuvre dont le but, c'est évidemment de faire exploser les couleurs, hein. De nous proposer une sorte d'œuvre tachiste, pourrait-on dire, hein. Mais finalement, assez reconnaissable. On va voir dans une forêt, une sorte de jungle, avec un tigre et un dormeur. On préfère ne pas regarder la scène suivante, hein, parce qu'à mon avis, le dormeur ne va pas dormir très longtemps. Pardon. Oui, ou alors très très longtemps.
Oui, ça donne une image de paradis, d'Éden, alors que peu après, ce paradis va exploser avec...
C'est ça. On a l'impression, effectivement, une sorte d'Éden, mais où pourtant, il va se passer quelque chose d'absolument épouvantable. Oui, oui, ouais, absolument.
C'est une peinture de taille ordinaire,
oui,
ça veut dire. Oui. Ça me fait penser comme une illustration d'un conte ou une illustration d'une œuvre littéraire.
Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, c'est une peinture qui a, alors je vais parler de notion précise, mais vous voyez, de cette taille-là, oui, c'est normal. Oui. Mais il y a un côté finalement illustration. Pour le coup, alors, soit illustration, c'est-à-dire on verrait bien ça dans un bouquin, etc., ou alors ça pourrait être très déco, vous voyez, un grand mur. Hein. C'est là où on retourne nos... entre les tapisseries de couleurs, hein, qui n'en sont pas. Il y a un truc vraiment grand. Vous voyez, un grand décor. Il y a peut-être qu'en tapisserie, ça aurait peut-être quelque chose aussi.
Il est exposé en ce moment, non?
Vous voulez dire, est-ce qu'il y a une exposition de lui en ce moment?
Parce que moi, j'ai une cousine qui m'a montré des... Ça me fait penser à Ayo.
Ah, je vois ce que vous voulez dire.
Vous savez, il a présenté aussi peinture monumentale, ouais. Il y a une girafe,
ouais,
il y a cette idée de nature qui pénètre à travers le corps des animaux aussi.
Oui, il y avait une exposition au centre Pompidou, voilà, jusqu'à la fin du mois de février, sur Gilles Agneau. Gilles Agneau, dont d'ailleurs j'ai dû vous montrer une photo dans la première séance, me semble-t-il. Ça devait être des pingouins qui se baignent, vous vous rappelez de ça?
Oui.
Gilles Agneau. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, Gilles Agneau, ce serait, je crois, beaucoup plus régulé, plus immédiatement regardable que ça. Puis Gilles Agneau, c'est beaucoup, effectivement, des animaux représentés dans des cages de zoos, etc. Là, on est dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus phosphorescent. Mais c'est la génération d'Agneau aussi. Hein. Lui est plus âgé, mais ils ont été contemporains. Alors, ça, c'était la dernière œuvre, la petite sélection que je voulais vous montrer pour la première partie de cette séance. Et finalement, toutes ces œuvres-là ressortissent de quelle entité picturale, courant pictural, tendance picturale, vous diriez, si vous aviez à trouver un mot ou des mots, pour fédérer ces différentes œuvres, vous diriez que c'est quoi?
Elles sont figuratives.
Des œuvres figuratives. On est dans la peinture, il n'y a rien d'abstrait. Ah ben Picasso, ça représente une femme. Hein. Alors, on n'en voit pas souvent des véritables mots comme ça tous les jours. Mais c'est une femme, c'est pas une femme. Picasso n'a jamais été abstrait. Picasso n'est pas abstrait. Donc ça représente toujours quelque chose, d'une manière bizarre. Mais on a vu que Balthus représentait des choses pas du tout abstraites, et c'est quand même très bizarre. Donc c'est pas parce que c'est bizarrement montré que c'est bizarre. Oui, hein. Balthus, il est très réaliste, et c'est bizarre quand même. Finalement, presque plus que Picasso. Donc effectivement, on est dans la figuration, dans le réalisme, d'une certaine manière. Pas le surréalisme, hein, le réalisme. Peut-être hyper, parfois, mais sûrement pas sûr. Hein. Donc effectivement, le réalisme, la figuration, hein, c'est évidemment une des grandes tendances de l'art, en gros, du milieu du XXe siècle, entre les années 20 et les années 70, hein, cette période qui est l'avant et l'après et le pendant Deuxième Guerre mondiale. Alors, puisque c'est un des courants, une des tendances capitales de l'art à cette époque-là, je vous ai donc préparé, je vous l'ai dit, un petit quiz avec une 35e œuvre.
Oh,
dans lesquels on retrouvera celle qu'on a vue, que j'ai donc replacée dans l'échelle chronologique générale. Donc pour celle-là, ça devrait aller assez vite. Mais j'en ai préparé d'autres qui vont essayer de montrer, depuis les années 20 jusqu'aux années 70, cette espèce de grande aventure de la peinture figurative en Occident au XXe siècle. Allez, on commence. Aïe, aïe, aïe.
La tristesse est assurée.
C'est un Allemand, ça.
Oui, Schiller.
Pardon ?
Schiller.
Ah, Schiller. Schiller, ce serait un peu plus tôt. Je ne sais plus quelle est exactement la date de sa mort, mais Schiller, c'est vraiment le début du XXe.
Nolde ?
Oui.
Nolde ?
Nolde ?
Oui.
Nolde, vous le situez comment?
Expressionniste.
Donc ce serait une œuvre de Nolde, un expressionniste allemand.
Oui.
Un camarade de...
Oui, du premier.
Qui s'appelle
Schiller.
Il n'y a pas de... Dix. Non, le premier qu'on a vu. Grosse, rappelez-vous. Donc on aurait là une œuvre d'un artiste proche, contemporain de Grosse. Un artiste allemand expressionniste de l'entre-deux-guerres, quoi. Hein? Tout le monde est OK avec ça? Ouais.
À défaut d'une autre idée, oui.
Ça, c'est un argument. Voilà. Bon, ça représente quoi?
Bah, c'est encore une scène d'intérieur.
Oui.
C'est pas gay. C'est
pas gay du tout. Non.
Non.
Un personnage inquiet.
Inquiet.
Torturé. Ouais.
Le soir.
Je ne comprends pas sa main dans le dos, moi. Comment elle...
Ah, on ne sait pas très bien comment ça marche. Oui, oui, c'est pas... On ne sait pas comment ça s'articule. Hein.
Oui. Il est sur un lit, je crois.
Ben, oui, a priori, il est sur un lit. On voit le lit à gauche. Il est un peu dérangé. Lui, il est sur le lit. Ça ne va pas très fort, il n'est peut-être pas très en forme. Hein. C'est le soir, il y a une bougie allumée. Allumée, oui.
C'est la solitude dans cette petite chambre.
Oui, c'est pas la grande forme. Hein. C'est pas le moral.
Malgré les couleurs.
Oui. Malgré les couleurs.
Oui, c'est les couleurs des lames, ouais, quand même.
Hein. On regarde de qui il s'agit.
Oui. Ouais.
C'est pas Kirchner. Donc effectivement, c'est une œuvre d'un expressionniste allemand. Hein. Et là, vous le voyez au tout début de notre séquence, en 1720, donc Ludwig Kirchner fait partie d'un série des grands expressionnistes allemands de l'entre-deux-guerres. Hein. Et voilà, il s'est représenté ici malade. Voilà ce qui explique ce que vous avez trouvé, d'ailleurs. Donc une œuvre effectivement très puissamment expressionniste, avec une manière de... composer, utiliser les couleurs qui correspondent bien à ce que vous avez vu.
Les dates, c'est gris.
Pardon ?
Non,
rien. Et là ?
Ben, c'est le premier, ça.
C'est la même chose que le premier ?
Oui, c'est le premier, c'est quoi ?
Je vous aurais mis deux œuvres de Grosse ?
Oui.
Non.
Bon, ça ressemble.
Oh oui. Eh ben non.
Non, parce que les personnages ne sont pas tout à fait peints de la même façon.
Ouais. Même s'ils sont, c'est vrai que ça fait penser. Hein.
Non, il n'y a pas la même touche.
Clairement, qu'est-ce qui fait penser? Qu'est-ce que ça dit, ce tableau-là?
Toujours la cri.
Ben c'est
la caricature.
Des lamentations.
Oui. Hein. Oui, toujours un côté caricatural.
Et puis très entassé.
Très
entassé.
Très entassé, très dense. Hein.
Et puis... toujours un intérieur triste, en fait.
Oui, un intérieur assez triste, oui.
Il y avait une grosse araignée.
Oui, ouais.
Une araignée, ou ça?
À droite.
Ah oui.
C'est une plante.
Moi, c'est une plante.
Elle va très mal.
C'est un peu la dèche.
Ouais.
Mais c'est parce qu'ils ont trop bu. C'est le soir, je pense qu'ils ont trop bu.
Non, mais c'est en pleine crise économique.
Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Parce que, je sais pas, quand on regarde de près, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, un personnage de gauche.
Il est allongé.
Bah, il est blessé apparemment, non?
On a un peu l'impression, oui.
C'est vrai qu'il a la tête.
On se demande si ce qu'il y a sur la tête n'est pas une sorte de bandage. Et la personne qui vient après,
elle est très déshabillée.
Oui.
Elle est vite ses charmes.
Mais oui. Je
crois que c'est, voilà. On voit bien qu'elle est en route.
Il y a un peu dans une ambiance musicale quand même, parce que le personnage allongé, il a un corps à la main,
oui.
Il y a un piano derrière. Il chante d'un spectacle, d'un cabaret ou...
Ah, je vois ce que vous voulez dire, oui. Je ne suis pas très sûr, mais je vois ce que il y a effectivement une dimension musicale. Hein. Ben, je crois que c'est pas formidable. Hein.
Non, partout, il y a des jeux de mains qui donnent une impression d'inquiétude.
Oui. Ben, d'ailleurs, il y a une femme qui se bouche les yeux. Celle d'après n'a pas l'air tellement plus gaie. Il y en a une qui se réfugie dans la lecture d'un journal dont on préfère ne pas savoir ce qu'il raconte. Voilà.
Et puis l'enfant qui est tout seul par terre.
Ouais.
Personne ne regarde,
qui a
l'air
de
s'ennuyer. Ouais. Il lit, non ?
Ouais,
ouais. Non, il regarde sur son poteau et
après. Il a l'air de bouquiner dans son coin.
Le cerf-volant est en berne.
Oui, ouais. Il est par terre.
Par terre, ouais.
Et la lampe est de travers, comme s'il y avait un courant d'air.
La plante n'a pas été arrosée. Enfin bref, c'est pas. Comme vous dites, quoi, c'est pas la joie. Il y a une sorte de. Le moral est en berne. Ouais. Vous remarquez aussi qu'il y a une bougie qui s'éteint sur le piano.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est un vieux truc de la peinture de vanité. Hein. C'est pas très bon signe. Alors, c'est pareil, ça, vous mettriez ça. Est-ce que vous avez une idée d'un nom, d'un artiste? Est-ce que vous avez une idée de quel coup, dans ce courant de la figuration, hein, est-ce que vous avez une idée de. Quoi il s'inscrit peut-être.
L'expression de la vie de la société comme,
oui,
comme grosse.
Comme grosse. Ben, c'est d'autant plus comme grosse que c'est pas grosse, mais c'est pas loin. C'est encore un expressionniste allemand.
Beckmann.
Beckmann, c'est un expressionniste allemand. Bon. L'Allemagne entre les deux guerres, c'est pas formidable, hein, vous le savez. Hein, je vous fais pas de, hein, voilà. Donc la situation est compliquée, économique. Hein, bientôt il va y avoir 29, etc. Mais politique aussi, je ne fais pas de dessin. Hein. Donc la vie est loin d'être simple. L'Allemagne vient de subir un revers militaire. La situation politique est compliquée. Enfin bref, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et les artistes, ben. Témoigne de ça. Hein. Alors, on continue.
Un portrait.
Donc, on est vraiment dans la figuration. Qu'est-ce qui frappe peut-être dans cette figuration-là ?
Un camaïeu de brun.
Pardon ?
Un camaïeu de brun.
Oui, presque monochrome.
La dureté du visage.
Oui, oui, c'est. Bon.
Curieusement coupé, hein, parce que
oui.
D'habitude c'est ou bien la taille ou bien en pied, mais là c'est ni l'un ni l'autre.
Oui. Oui, presque surprise, et je crois que vous avez souligné le côté un peu dur, quoi. Effectivement, il y a un côté fou. C'est sans concession, mais c'est voilà, une dimension très fou. Très direct, très.
Et à côté de ça, ce sont les vêtements qui sont un peu n'importe comment.
Oui, oui, oui. Mais alors, ils sont traités avec la même insistance, oui. Vous voyez. C'est que le visage. Vous voyez, le visage, en disant, on a besoin d'être surpris. La personne est en train de nous dire tu veux une photo, quoi. Voilà, il y a un côté assez dur, assez rude, insistant, jusque dans le traitement, effectivement, du vêtement. Hein.
Et des cheveux aussi, parce que le traitement des cheveux est.
Oui. Oui, oui. Oui, oui.
Là aussi, le fond, il y a un chapeau, il y a même le personnage qui a des vêtements.
Oui, oui, oui. Bon, et là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez l'idée d'un, d'un peintre, d'un lieu où ça a été fait? Non? Alors ça, c'est un peintre français qui a eu son heure le gloire à cette époque.
Ah,
de Rhin. Ouais. On connaît beaucoup plus l'entrée de Rhin, Fauve, celui du début du siècle. Hein. Après, il a travaillé beaucoup de choses comme ça, des portraits, etc. Et voilà un exemple très très typique de ces portraits d'André de Rhin, très, très durs comme ça, hein, une dimension très, très directe. Et dans le genre,
c'est un mélange de tout, un personnage avec un mélange de plusieurs attributs. Hein.
C'est bizarre. Bah, c'est quand même la mer, hein. Il y a du coquillage, il y a le bateau, il y a le poisson.
Oui, il y a quelque chose de maritime. Hein.
Ouais,
oui, poisson, bateau, mer, coquillage. C'est
goguinesque.
C'est
goguinesque.
Oui, il y a un côté goguinesque. Alors, c'est pas Gauguin, mais ça fait un peu penser. C'est, pardon. C'est un côté truculent. Hein.
Oui.
Parce
que caricatural.
Oui.
Ça veut penser à un déguisement.
Oui. Oui, oui. Comme si quelqu'un s'était... Le quelqu'un qui s'est déguisé, ça peut être qui, d'ailleurs?
Neptune.
Vraisemblablement Neptune qui a présenté, après tout, vu ses attirails maritimes. Oui. Oui, et donc c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Neptune, et ce quelqu'un, ce serait qui?
Le peintre.
Le peintre.
C'est un autoportrait.
Donc c'est une sorte d'autoportrait en Neptune, finalement.
Et de qui?
Donc toujours la figuration... Une idée d'un nom, d'un territoire, non? Bon, un artiste que, on a vu, beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. Il s'appelle Kees Van Dongen. Un artiste d'origine hollandaise, mais qui a beaucoup étudié en France. Hein. Van Dongen, c'est quelqu'un qui a été très... qui a eu beaucoup de succès en société du temps. Ensuite,
dans les années 30.
C'est pareil, c'est un intérieur triste.
Oui, un intérieur triste.
Un couple vieillissant, ça ne fait pas naturel.
Non.
Un petit peu du 3D, un truc comme ça.
Ouais. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on voit comment ces artistes de la figuration, en tout cas les faits réalistes, hein, finalement, ce n'est pas parce qu'ils donnent dans le réalisme qu'ils sont si, entre guillemets, réalistes que ça. Et ça qui est, je crois, intéressant, c'est que quelquefois on a un peu tendance à dire, oui, allez, c'est bien gentil, c'est pas très nouveau. Et en fait, c'est aller un peu vite en besogne, quoi, parce que le réalisme est quelquefois quelque chose qui est une sorte de, comment dire, de vernis sur quelque chose qui, en fait, propose des choses comme ça, qui sont... En fait, pas si naturel que ça.
Sinon, parce que l'angle de vue est très haut.
Oui, l'angle de vue est haut. Puis la scène, je crois pas trop, quoi.
Il s'amuse pas.
Alors, c'est pas rigolo, rigolo. Hein.
Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose de rigolo.
Non. Oh, notre Neptune avant. Il faut dire que la période ne l'est pas. Hein. C'est dans l'entre-deux-guerres, c'est un peu l'inverse d'aujourd'hui. Dans l'entre-deux-guerres, hein, il y a quand même un certain nombre de gens, alors évidemment, qui jouaient les cassants, alors qui disaient attention, ça va mal se passer. Hein. Oui. Simplement, on ne les écoutait pas trop. Hein. Mais enfin, il y avait des gens pour dire attention, c'est un problème, quoi. Il y a un grand, gros problème. Hein. Alors évidemment, ces gens-là, notamment les expressionnistes, hein, ils ne pouvaient pas présenter des choses marrantes parce que l'époque ne l'était pas, quoi. Finalement. Et vous avez raison, il n'y a pas grand-chose d'autre. À part notre Van Dongen qui fait le pitre en Neptune.
Et puis les choses très colorées.
De la fin, ouais. Oui. Mais qui est après la guerre. Ah. Oui. Alors, ça a été fait où, ça?
En Angleterre.
Angleterre.
Oui, parce que c'est écrit « The Lord is our shepherd ». Donc, c'est aux États-Unis.
C'est une œuvre états-unienne. On en parle très souvent, hein, de l'art réaliste américain. Mais voilà une œuvre de Benton, qui est donc un artiste réaliste. Vous voyez, il est mort à Kansas City, aux États-Unis. Le Seigneur est mon berger, hein, ce qui a marqué dans le petit cartilio derrière. Donc en gros, le titre est formidable, mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est une sorte de, vous voyez, de hopper différent, quoi. Voilà. Benton, artiste dont on parle peu en. Ah, vous connaissez sûrement ce chef-d'œuvre-là. Une œuvre extrêmement importante.
Elle a des mains énormes.
Oui. Et qui est, évidemment, c'est là pour nous capter, vous comprenez. Les mains sont énormes.
Puis le maquillage.
Oh, je ne crois pas qu'il y ait une Marie, vous voyez. Oh non. Oh non, c'est un homme. Un œil au beurre noir.
C'est pas une journaliste.
Si. C'est une journaliste. On est dans quel. Dans quel contexte?
Dans un café.
Oui.
Dans
un
café.
Oui. C'est le journaliste inspiré. Hein. Et puis libéré.
Oui, c'est sans les faire libérer des années 20.
C'est ça.
Découper les cheveux.
Oui, les cheveux à la personne. Et voilà. En train de fumer un clope. Enfin, voilà.
C'est une femme libérée.
C'est une femme libérée.
C'est pas Edmond Charleroux,
mais. Non, c'est pas elle. À votre avis, ça a été fait dans quel, dans quel pays, dans quel contexte, ça?
Paris.
Voilà. Autodix. Voilà encore un expressionniste allemand. De la clique des. Des grosses. Beckmann. Donc c'est une journaliste, Sylvia Van Arden, vous voyez, en pleine discussion, elle est pleine d'idées, elle écrit 50 articles, enfin, vous voyez le genre, quoi. Une femme très libérée, superbe tableau d'Autodix, hein. Tellement typique de cette société allemande de l'entre-deux-guerres, à laquelle appartient également ça, qui est donc, on l'a vu tout à l'heure, une œuvre de Georges Gross, les piliers de la société, hein. Vous aviez bien vu tout à l'heure comment il s'agissait de montrer, d'épingler la société allemande du temps. Il est bien arrivé dans cette œuvre très importante. Eh oui, c'est connu. L'œuvre en tant que l'artiste. C'est une œuvre de Bonnard.
Oui, j'ai visité le musée il n'y a pas longtemps.
Et bien voilà. Voilà. Alors, un habit qui, à cette époque-là, est un peu moins un habit qu'il n'était autrefois. Mais c'est vrai, on sent quand même encore, ne serait-ce que dans le premier plan, des restes de la période de Nabil Bonnard, qui est aussi un vase qui a beaucoup, beaucoup évolué. Hein. Donc, très, très belle œuvre de Bonnard. Bon, c'est un peu plus gai que le reste. Hein.
Oui.
Une œuvre vraiment étonnante, où la couleur, bon, Bonnard, c'est vraiment... un artiste qui travaille beaucoup la couleur, vous le savez, hein, et on le voit bien dans cette œuvre-là. Hein. Vous voyez, assez tôt, hein, on est en 26. Bon, et alors je crois que vous allez tous reconnaître le peintre suivant. Soutine, voilà. Chaim Soutine. Hein.
Il y a le rouge, il y a le visage, il y a tout.
Hyper reconnaissable. Hein. Un artiste russe, exilé en France. Bon, vous avez lu plein de choses, oui, voilà, vous avez plein de choses de lui, vous avez l'orangerie à Paris, hein, Soutine, bon. Donc là, un artiste très typique de cette figuration de l'entre-deux-guerres. Hein. Alors, celui-là, le but tout à l'heure, pas dîner. Un artiste qu'on connaît mieux pour son travail hyper géométrique. Malevitch. Malevitch. C'est une œuvre de Casimir Malevitch. Vous savez, l'auteur du carré noir sur fond noir, du carré blanc sur fond noir, enfin, du carré blanc sur fond blanc, du carré noir sur fond blanc, du carré blanc sur fond blanc. Voilà. Mais qui, après sa période suprématiste, abstraite, hein, est revenu vers la figuration, notamment pour des raisons de censure. Hein. Ce n'était pas simple d'être artiste en Russie à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs.
Pas plus qu'aujourd'hui.
Voilà. Donc, voilà. Mais vous voyez que, et vous l'avez bien vu, hein, il géométrise, voilà. C'est sa manière de garder, de ne pas se dédire tout en étant acceptable. Et là, vous l'avez noté tout à l'heure, parce que je continue ma chronologie. Hein. Voilà donc une œuvre de Picasso, Grand Nouveau Tenue Rouge, 1929, on est avant la guerre. Et là, un paysage animé,
très sombre,
ouais, on ressent bien la période, même si ça représente un paysage avec une rivière, des arbres, des fleurs, voilà, c'est quand même pas... Alors l'artiste est un habitué de ces ambiances assez plombées. Qu'est-ce qui frappe aussi peut-être dans une œuvre comme celle-là?
Il n'y a presque pas de lumière.
Oui.
Enfermement total.
Et la manière de représenter un truc qui me frappe notamment.
Et les gros troncs qui sont.
Pardon. Il y a des formes géométriques.
Oui, il y a des formes géométriques.
Les troncs des.
Qui a un côté très. C'est ça, assez lourd, assez sculptural finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des volumes. Il y a un côté. Volume. Pardon. Ça vous dit quelque chose, ça?
Non.
Non. Un artiste français qu'on a beaucoup oublié, je crois, qui s'appelle Marcel Grand-Mère, qui a beaucoup travaillé. Dans ce petit diaporama, j'ai bien ça, un artiste français d'époque, parce qu'on en parle assez peu. Et voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion, peut-être, de les évoquer un peu. Ah, ben, l'œuvre suivante. Ça roule.
Un sou, c'est un sou.
Ah, c'est qui ça? Pardon? C'est pas un peu. C'est pas Delvaux. Oh, mais je pense que vous connaissez tous.
Ça
a été fait où? Pas en Hollande. Aux États-Unis. Donc, il est en donnant pour sa Hopper, mais pas très loin. Hein. Alors, c'est une œuvre très connue, mais l'artiste ne l'est pas trop, je trouve. Bon, alors, évidemment, on voit bien ce que ça charrie, tout ça. Hein. C'est un peu, vous savez, notre Benton de tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, les deux personnages qui, celui qui cartille les ans, je suis berger, enfin, voilà, qui font la guerre. Enfin, ici, c'est un peu pareil. Hein. Grant Wood. En fait, c'est un artiste qu'on ne connaît pas bien en France. Hein. Cette œuvre-là est hyper simple. Aux États-Unis, ça, c'est l'équivalent de la Joconde. Hein. Cette œuvre-là est super connue aux États-Unis. Hein. Beaucoup de gens font des selfies devant, etc. Mais c'est, ça, cette œuvre qui est à l'artiste de Chicago aujourd'hui, c'est l'œuvre phare de la peinture américaine. Mais l'artiste est peu connu, Grant Wood. Mais vous voyez bien dans quel contexte la figuration il s'intègre. Alors, l'œuvre suivante, on l'a déjà vue. Pardon. American Gothic. Vous avez vu que derrière, il y a une maison et que sur le pignon de cette maison, il y a une fenêtre qui reprend l'idée des fenêtres gothiques. Et en fait, il y a aux États-Unis, à la fin du 19e et début du 20e siècle, un courant qu'on appelle American Gothic, qui est un courant qui, si vous voulez, d'un certain nombre d'architectes qui font des constructions en s'inspirant de l'art gothique. On oublie beaucoup, d'ailleurs, les Américains eux-mêmes, hein, qui sont des Européens. Quand les Américains, les États-Unis, devrait-on dire, hein, arrivent justement aux États-Unis, ils viennent d'Europe. Donc ils charrient avec eux les chemins de l'Europe.
Et la fourche,
Oh ben, c'est, je crois, pour montrer le côté rustique. Alors, ça donne évidemment un côté un peu. Voilà, brutal et tout ce qu'on veut, hein, inquiétant. Hein. Mais on voit bien qu'on est dans un milieu assez conservateur, hein, d'un territoire américain très marqué par la religion, où ça rigole pas trop.
Hein.
Là, ça rigole pas. Hein. Et American Gothic, c'est l'évocation de ce courant architectural des États-Unis, fin 19, début 20e, qui se réfère à l'art gothique. Alors, l'œuvre suivante, vous la connaissez, hein, c'est l'œuvre de Hopper. Alors ça s'appelle comment finalement ? Chambre à New York. Et l'œuvre suivante, vous la connaissez aussi. C'est donc de Balthus. Ça s'appelle La toilette de Cathy. Bon, on est bien avancé. Mais justement, espèce de, d'entre-deux, où nous laisse le titre lui-même, hein, c'est exactement ce que veut Balthus. Quoi. À nous maintenant.
Ça ne nous apprend rien.
Non. Mais c'est bien le but. Oui, hein. Si vous aviez à rapprocher ça de certaines œuvres qu'on a vues, vous diriez quoi ? Alors ça fait penser au reste allemand, effectivement. Ou bien quoi ?
Aussi aux Américains.
Et aussi aux Américains. Et de fait, c'est une œuvre d'un artiste réaliste figuratif américain. Albright. C'est pas Madeleine Albright. Ah. Vous voyez toujours espèce de rêve américain ici rustique, mais qui a ses limites. Hein.
Ah oui. Pourquoi c'est la cuisine du fermier alors qu'on dirait que c'est une fermière?
Ah bah parce que le fermier ne doit pas être loin, c'est lui qui a offert la cuisinière à la fermière.
Non, mais elle travaille pour lui.
Oui, c'est ça.
Ah, voilà.
Elle part pour lui.
Et je crois qu'il y a même un chant. Mais je crois que le titre, on dit long. Hein.
C'est Toffoli, ça, non ?
Pardon ?
C'est pas Toffoli, ça ?
Non. Oh non, Toffoli est plus tardif et pas très inventif, d'ailleurs.
C'est sud-américain ?
C'est sud-américain.
C'est sud-américain. C'est Ribeiro ?
Pardon ?
Ribeiro ?
Ribeiro ?
Oui. Ou sa femme ?
Sa femme.
On n'est pas très très loin.
Eh bien, ça, Frida Kahlo ?
Frida Kahlo. Non, c'est pas Frida Kahlo.
Non,
qui était le compagnon de Frida Kahlo ?
Rivera.
Diego Rivera. Et alors, Diego Rivera, qui est, vous savez, un muraliste américain, qui a fait des choses extraordinaires, notamment à Mexico, hein. Rivera, quel est le but, quoi ? Qu'est-ce qu'il montre dans une œuvre comme celle-là ? Pardon ?
L'exploitation.
Voilà, c'est ça. C'est de l'exploitation, notamment de la société paysanne sud-américaine, hein. Et notamment d'origine indienne. Hein, voilà. Donc ça, c'est une œuvre petite de lui, mais il a fait des choses énormes et tout à fait extraordinaires. Hein. Donc là, on voit bien un type qui est en train, jeune, elle, c'est en train de s'écrouler sous un ballon de fleurs, avec le contraste entre les fleurs et une terrible situation. Hein.
Ça veut dire quoi, température maçonnite ?
La maçonnite, c'est une sorte de... comment dire, de ciment, si vous voulez, de béton. La maçonnite, c'est donc pas une toile, hein, c'est un support dur, en mortier. Voilà, de toute façon, Rivera est quelqu'un qui travaillait beaucoup, c'est un muraliste, pas sur des choses dures, sur des murs. Là, c'est une œuvre, un tableau, si vous voulez, mais sur maçonnite, comme si elle avait fait c'est du placo-plâtre. Si vous voulez. Et la tempéra, c'est une peinture qui est faite notamment avec des œufs, donc c'est une peinture beaucoup plus douce, mate que la peinture à l'huile, qui est brillante, qui est bien courante. La tempéra permet des transparences, des... Et ça, c'est la tempête. Et de la peinture à l'huile. C'est beau, hein ? Ça, vous allez me reconnaître ça. Pardon ? Oui, absolument. Édouard Munch. Alors, c'est compliqué, parce que entre Munch et Munch, il faut dire Munch, quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pas ou, c'est pas O, c'est Munch, c'est entre les deux. Je me tiens d'un. Un Norvégien qui a essayé de me faire penser dans tout. C'est très très dur. Voilà. Donc, Edouard Munch. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Donc, l'auteur du cri. Hein. C'est un peu plus gai, mais pas tant que ça. C'est un hein. Oui, c'est un peu plus. Hein.
Solitaire.
Ouais. Enfin, vous connaissez. Pardon ?
Les ronds derrière.
Les rochers. Alors, c'est des petits rochers dans l'eau.
Dans l'eau,
oui.
C'est des rochers dans l'eau.
Mais vous connaissez bien la manière de Munch, hein, très. Ça, c'est lavé, ses couleurs, très particulières aussi. Hein.
C'est le même esprit que Hopper, c'est deux solitudes.
Oui.
L'une à côté de l'autre.
Oui. Alors ici, c'est plus nordique, plus... évidemment, c'est à l'extérieur, donc finalement, on ne sait pas où il faut. À la grande ville, ça ne va pas, à la campagne non plus, au bord de la mer non plus. C'est pas la joie. Hein. D'ailleurs, ça continue. Alors là, vous allez me trouver qui c'est. Non. Un Français. Ouais. Bonjour, un peintre qu'on a complètement oublié. Mais qui a eu vraiment son heure de voir à cette époque. Et là, c'est une peinture vraiment faite durant la période de guerre, un prophète de malheur, mais on comprend pourquoi. Mais un peintre, vous voyez, qui scinde beaucoup avec des aplats de couleurs, une fois très, très fort.
Cerné noir.
C'est un visage qui est au-dessus ouais. d'une forêt.
Ouais.
Un arbre.
Oui, un visage. C'est une sorte de paysage avec un grand personnage qui regarde le paysage.
Dieu le Père.
Ben voilà, c'est sans doute des choses comme ça. Cette œuvre s'appelle Le Grand Jardinier, ou quelque chose comme ça.
Ça
semble évoquer ce que vous dites. Un peu comme si Dieu le Père était en train de regarder sa création. Alors là aussi, est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Non.
Ou quelqu'un? C'est un artiste que vous avez cité tout à l'heure, qui est beaucoup plus connu pour son œuvre expressionniste. Il s'appelle Émile Nolde. C'est un artiste expressionniste, mais qui poursuit sa carrière au-delà de la Seconde Guerre.
Quelle nationalité ?
Il est allemand.
C'est construit comme une... comme un vitrail.
Oui, oui, oui. Alors, les œuvres qu'il a fait avant sont des œuvres beaucoup plus contondantes. Hein. Là, je vais montrer une œuvre tardive parce qu'on voit toujours les œuvres du départ, la danse du Jourdain, etc. Important, je crois, de voir aussi que c'est un artiste qui est allé loin, qui, voilà, qui a poursuivi au-delà de cette époque-là.
Une nature morte.
Une nature morte. Oui, je vais vous montrer une nature morte parce que cet art figuratif, ce n'est pas uniquement des personnages, c'est aussi de la nature morte. Vous le voyez là. Alors, ça, c'est un artiste français, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Donc, on va y aller franco. Hein. Un bleu, ça vous dit quelque chose?
Non.
Et ben voilà. C'est pour ça que j'ai mis un certain nombre d'artistes français de l'époque, parce qu'il y a un grand courant figuratif en France à cette période, qui a été très très minoré du fait de d'autres courants importants. Qu'on a évoqué, le pop art, qui est plus tardif, mais qui après tout commence après la Deuxième Guerre, le surréalisme, l'art abstrait, qui sont vraiment les courants qui ont le vent en poupe, la figuration, du moins beaucoup d'artistes figuratistes, beaucoup moins. C'est pour ça que je trouvais important aujourd'hui d'évoquer certains d'entre eux, même si aujourd'hui ils sont très très dans l'ombre. Et ça, c'est quoi? Les intestins? Ben, ça fait assez penser à ça.
C'est un visage, il y en a deux.
C'est quelque chose de très organique, effectivement.
Et on dirait que c'est une queue de poisson ou des fautriers?
Fautriers, absolument. Fautriers, exactement, bravo.
L'écorché,
oui, l'écorché. C'est un artiste qui a fait beaucoup de choses comme ça, c'est avec beaucoup de matériaux, de matière, de pâte, vous voyez. Fautrier,
c'est pas
bravo. Pardon.
Ça, c'est pas
réaliste. Ben, vous voyez quand même, c'est un personnage, vous voyez, il y a même des mains à gauche. On n'est pas dans l'abstraction, là. Fautrier, il n'a jamais fait d'abstraction. C'est une figuration non représentation, hein. Mais c'est pas abstrait. Donc on est effectivement, vous avez raison, aux limites de. Il a fait notamment fonder d'une série de œuvres qu'on appelle les otages, qui présentent des visages, de personnages torturés, etc. C'est sa idée. Hein. On est en 44. Et qui sont aussi à. Leurs travaux sont intéressants parce qu'ils sont à la limite de ça. On n'est pas dans l'abstraction, mais on n'est pas loin.
Ça serait triste.
Oui. Là aussi, un artiste français, complètement oublié aujourd'hui,
c'est quand même bizarre.
Il commence à ressortir.
Ils sont bizarres par rapport à ce corps.
Oui, 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 c'est un... Ouais. Ah, c'est très intéressant et pas très... Une sorte de, d'autre Balthus, d'une certaine manière. Alors, c'est un livre, je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. Il s'appelle Gruber. Un artiste très intéressant, une sorte de, d'autre Balthus, si vous voulez. Qui est pendant des choses très normales, mais tellement bizarres que c'est... Il y a un problème à chaque fois. Alors là, le suivant, pas de problème.
Matisse.
Bravo. Matisse, Henri Matisse.
Il n'est pas connu, celui-là.
Pardon ?
Il n'est pas connu, comme ça.
Peut-être pas, oui.
Mais il date de quelle époque, celui-là ?
Ah ben, vous allez voir. Juste après la guerre. Superbe tableau, hein. Voilà, donc on est après la guerre, ouf, c'est plus gai, comme par hasard. Très beau tableau, vous voyez comment la géométrie répond à la couleur d'une certaine manière. Hein. Pas mal ça. Hein. Puis ça nous change, les choses noirchonnent antérieures. Et on retrouve. Alors, je ne suis pas sûr que vous connaissez l'artiste.
Non.
Mais je pense que vous connaissez celui qui est représenté. Somerset Maugham, comme on dit. Puisqu'il ne faut pas dire Maugham, ça se prononce Maugham. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'il ait une origine asiatique. Hein. Et Sutherland était donc un artiste anglais, très, très, très marqué par ce réalisme. Mais même, c'était peut-être hyper réaliste, parce que vous avez bien, bien noté tout à l'heure. Hein. Après, eh bien, on retrouve notre Fernand Léger, pas de problème. Voilà. Une espèce de joie, du travail, de gloire, du travailleur, de l'ouvrier, hein, que vous avez bien évoqué, qui contraste pas mal avec ça. Un artiste français, très gai. Ah, vous savez, on n'a jamais aimé, depuis trois, on n'a jamais aimé les Cassandres, encore une fois. Ça, ça n'a pas servi la guerre de Troyes, déjà.
Ben oui.
De la ville de Troyes.
Il leur
manque la main. Alors, c'est pareil, c'est d'un artiste français, quasiment inconnu en France, très connu aux États-Unis ou en Angleterre. Il s'appelle Fougeron.
Les juges,
oui. Oui. Donc, c'est, si vous voulez, ça résiste finalement à le même genre d'idée que Fernand Léger, c'est un artiste communiste, très engagé, qui évoque l'idée du travail, mais autant Léger le fait, une espèce de gloire ouverte et colorée que l'on vient de voir, hein, autant Fougeron, lui, c'est une espèce de dénonciation, vous voyez, plombée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a quasiment pas d'œuvre de Fougeron en France. Hein. Une grande partie d'entre elles sont aux États-Unis ou en Angleterre.
C'est Buffet.
Ça, c'est une œuvre de Bernard Buffet, une œuvre tôt. Bon, Bernard Buffet n'a pas fait que les clowns, son grand intérêt qu'on lui connaît, qu'il a fait par centaines, et qui sont quand même pas très passionnants. Au début de sa carrière, il fait des choses assez intéressantes comme ça. Là, on est assez tôt. Hein. Il aurait continué comme ça, ça aurait été un grand artiste.
Pas très gai quand même.
Pardon ?
Pas gai.
Non, c'est pas gai.
Et puis, toujours des trucs un peu filiformes.
Oui, c'est gros, comme ça. Mais là, on est quand même devant une œuvre très forte, et en 1950. Hein. Et le suivant, que vous avez vu. Ah ! Cette scène si gaie et pourtant si terrible. Charles Lapicque. Voilà. Alors vous savez qu'une des plus grosses collections de Charles Lapicque est temporelle, Franche-Comté.
Non.
Vous savez pas ça ?
Non.
Pas bien ça.
C'est où ?
Au musée des Beaux-Arts de Besançon.
Ah oui.
Voilà. Il y a des centaines de lapides à Besançon. Alors, tout n'est pas exposé. Hein. Voilà. Et Charles Lapide a un site très, très intéressant. Là aussi, peu connu en France. Hein. Bon, les Français connaissent très mal leur peinture réaliste. Hein. Et voilà, c'est un récit très, très intéressant. Alors, qui est vraiment intéressant, c'est cette espèce d'explosion de couleurs par aplave. Alors, qui représente des choses pas si drôles que ça. Hein. Mais avec, c'est un peu comme léger, une sorte de légèreté, justement, colorée, très vive. L'important, c'est vraiment d'un type, on est en Orient, il y a un côté douanier Rousseau dans cette
c'est
avec les couleurs qui sont celles du pop. Hein. Il y a un côté un peu pop art là-dedans, vous voyez. Hein. Et voilà, et donc, un pâtre oriental, elle va se faire dévorer par un tigre. Et pourtant, c'est très gai. Hein. Ça fait penser à un collage et pourtant c'est peint. Ouais. Ouais.
Oh là là, les détails.
Oui. Vous reconnaissez quelques-uns des personnages.
Oui, il y a Van Gogh. Il y a Van Gogh.
Van Gogh, là-haut.
Oui,
ouais.
Le tableau de.
Combien ?
Non. Il y a Mondrian.
Oui, c'est bien possible.
Ah, mais il n'y a pas Beckman, là-haut.
Ouais.
Et lui, et lui, et ça.
En haut, c'est pas Beckman, bien sûr.
Pardon ?
En haut, c'est pas Beckman.
Si, 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 bravo, absolument. En haut, c'est Beckman. Celui dont on a vu une peinture tout à l'heure. Bravo. Et juste à gauche de Beckman, c'est Munch, enfin Monk. Monk. Ça, c'est Jackson Pollock. Ça, c'est Henri Matisse. Ça, c'est Demoiselle d'Avignon de Picasso. Et cette œuvre-là est d'un peintre français inconnu en France, Héro, qui est en fait d'origine islandaise, hein, comme l'indique son nom d'origine, imprononçable, Gunnarsson. Héros, hein, mais qui vit en France, hein, et qui fait comme ça, vous pouvez. Alors, ça, c'est une œuvre très figurative, mais qui fait partie, qui tend vers le pop.
Oui.
Hein, on dirait la bande dessinée. Vous savez, ça me rappelle Liechtenstein, par exemple, vous rappelez ce qu'on a vers ces anciens. On est là, je voulais vous montrer, pour terminer, quelques artistes comme ça qui jouxtent le pop art, parce que parfois, cette idée de la figuration vient pas loin de ça. Alors ça, vous connaissez peut-être cette œuvre qui est au Musée national d'art moderne, qui est très fameuse. Hein. Une œuvre très curieuse, ce que vous voyez au milieu, c'est un miroir. Donc quand on la regarde, on se voit dans le miroir, donc on est intégré à la scène. C'est très, très étrange. Ça vous dit rien, ça ?
Non.
Donc c'est un autre artiste français, Jacques Monory. Ça s'appelle meurtre numéro, je ne sais pas combien. C'est une attaque de banque, si vous voulez. Hein. Bon, c'est des choses qui n'arrivent jamais. Hein. Et voilà. Et donc, une œuvre très curieuse parce que, en plus, vous voyez, la partie vitrée, là, enfin, miroirée, et il y a des impacts de balles, c'est ça. Donc, c'est une œuvre très. Et très pop, là aussi. Hein. C'est du hopper 30 ans après. Autre artiste français.
Des photos détournées.
Oui, c'est ça, c'est des photos détournées, un peu à la Warhol. Hein. Oui, et c'est vraiment là aussi, on est proche du pop. Hein. Oui, vous voyez que la figuration, elle peut jouxter le pop.
C'est un triptyque.
Une sorte de, même si, si vous voulez, les œuvres sont un peu différentes et différentes de format, mais les trois œuvres vont ensemble, c'est une sorte de triptyque. C'est de Rancillac. Ça vous dit rien tout ça ?
Non.
Ah ben c'est utile qu'on en parle. Vous remarquez comment ces réalistes français sont inconnus, hein, et notamment en France.
On parle toujours des mêmes.
Pardon ?
On parle toujours des mêmes.
Ah oui.
C'est
pas fautif. Absolument. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et alors ça ?
Des pommes de terre.
Des pommes de terre.
Un adorateur de la pomme de terre.
Un adorateur de la pomme de terre. Ça aussi, ça fait très pop. Vous savez, quand on avait vu la première séance consacrée au pop art, hein, on avait parlé de Klaus Oldenburg, vous rappelez? Je vous ai montré une sculpture de lui qui représentait une sorte de batterie, mais complètement molle. Et je lui ai dit que c'est le Beauvoir, il vient de dire, on fait une série sur les pommes de terre, notamment au four, avec une noix de beurre qui fond, etc. Eh bien, alors ça, c'est pas Claes Oldenburg, c'est un artiste français, lui aussi, il a connu, qui s'appelle Cueco.
Ah, mais il doit écrire aussi.
Oui, absolument.
Et puis, il a fait beaucoup de choses à la radio.
Absolument, sur France Culture. Oui. Henri Cueco. Cueco est un quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui est beaucoup intervenu sur France Culture, on l'entendait régulièrement. Hein. Et Henri Cueco est quelqu'un qui a comme ça présenté des choses du quotidien, mais pour en révéler la dimension picturale. Il y a une grande période sur les pommes de terre, là, vous voyez un exemple. Et décidément, voilà un artiste réaliste, enfin, là c'est la figuration, mais qui, comme les deux, trois autres avant, jouxte.
Qui veut représenter ces pommes de terre sur une sorte de carrelage.
Oui.
Est-ce que les carreaux noirs qui partagent en quatre,
ouais,
en fait, ces quatre toiles rassemblées.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui. Ces quatre toiles rassemblées qui forment une sorte de composition. Oui. Et ce qui l'intéressait, c'est de voir les pommes de terre, les nuances de couleurs, le fait que souvent il a pris les mêmes pommes de terre, puis il y a des temps d'équilibre qu'elle germe. Voilà. Il a beaucoup travaillé, il a eu pendant 10 ans un cycle de la pomme de terre. Pourquoi pas. Ben voilà, c'était avec les pommes de terre. Je crois que vous allez avoir faim maintenant, vous allez vite faire des fêtes. C'est avec les pommes de terre qu'on termine la séance aujourd'hui, qui avait eu trait à l'idée de la figuration d'un certain réalisme. Vous voyez que c'est extrêmement riche, il y a des artistes très nombreux. On a voyagé en gros du début du siècle avec la nouvelle objectivité, hein, les expressionnistes, jusqu'à Matisse, Picasso, en passant par plein d'autres, et jusqu'à des artistes qui jouxtent le pop art. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de prisme très très important de cette idée de la figuration dans la peinture occidentale. Alors les deux prochaines fois, on va explorer deux autres grandes tendances, hein, de la peinture, ce sera la peinture de cette même période, ce qui fait qu'à la fin de cette série, on aura vraiment, je pense, hein, une idée assez juste de ce qui se passe dans toutes ces parties médianes du XXe siècle. On parle souvent du départ, souvent de la fin, moins du centre. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire.
Eh ben, voilà. Merci.
Voilà.
C'est pas
gay,
hein, c'est sûr.
Oui, je sais pas. Moi, je trouve que. J'irais pas ça. Moi, je trouve que ce qui est pas gay, c'est de pas voir la réalité. Parce que finalement, moi, j'aimerais bien des pommes de terre sur mes mains. Ou bien d'autres choses, quoi.